Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien dans cette fraîcheur. On est en hiver.
Ouais.
Hein, moins 5 toute la journée. Ça n'a pas remonté un petit peu de 2 degrés, mais vraiment, ça pique un petit peu. Écoutez, moi, je suis ravie de vous retrouver, mais je suis un petit peu triste et nostalgique parce que c'est la dernière de l'année.
Ouais,
mais on va se retrouver l'année prochaine avec d'autres. D'autres rendez-vous, bien sûr, culinaires. Donc ce soir, on va encore un petit peu voyager avec trois belles recettes délicieuses. J'ai oublié. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Bonsoir Théo.
La politesse avant tout.
Oui, tu vois, je ne t'oublie pas, moi. Alors voici les recettes que j'ai choisies aujourd'hui de vous faire partager. Donc on va, comme c'est la dernière, vraiment c'est le potimarron, c'est vraiment la dernière ligne droite. On n'en aura plus parce que là les récoltes sont faites, c'est les premières gelées. Donc automatiquement ils vont avoir tout ramassé. Si vous les avez d'ici encore 15 jours, méfiez-vous. Parce que ça veut dire que c'est passé au frigo et voilà. Et vraiment, c'est maintenant hein, que ça se récolte. Les derniers, ils doivent les avoir récoltés la semaine dernière. Parce que là, je l'ai été annoncé, donc voilà.
Mais ça se garde bien pour l'hiver et puis ça se congèle très bien aussi.
Voilà, ça se garde bien, ça se congèle. Donc si vous en avez encore de votre jardin ou vous en avez acheté, effectivement, vous le congelez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour la décongélation, c'est décongélation 24 heures. C'est beaucoup mieux, vous le laissez dans le frigo 24 heures. C'est tranquille, comme ça. Voilà, Alors, pour la recette, comme c'est une velouté de potimarron aux noisettes, donc pour ça, vous aurez besoin d'une pomme de terre, d'une gousse d'ail, d'une cuillère à soupe de poudre de noisette, 2 noisettes. Voilà, donc une cuillère à soupe de poudre de noisette, c'est plus facile parce que des noisettes entières, c'est...
Il faut les mixer.
Voilà, mais ça, je le dis aussi dans la recette.
D'accord.
C'est compris dedans. 30 g de beurre, un potimarron, 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 2 brins de ciboulette. Côté matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'un blender, d'une paire de ciseaux, d'une cocotte, d'une poêle et de 6 bols. Parce que c'est une veloutée que moi j'ai préparé dans les bols, c'est plus sympa à servir. Ensuite, on va aller du côté du poulet blasquez au piment d'Espelette. Donc pour ça, il vous faudra un poulet, 3 poivrons rouges, 100 g de lardons, 3 oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de farine et du piment d'Espelette. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un économe, d'un couteau, d'une cocotte et d'une cuillère en bois. Et puis on finira nos recettes avec un gâteau qui plaira bien à Nathalie, je pense, parce que c'est le gâteau aux poires au beurre salé. Et Nathalie, je sais qu'elle est fan de beurre salé.
Je suis un peu bretonne dans mon cœur.
Donc pour ça, vous aurez besoin de 6 poires. On va voir les différences au cours de l'émission, les différentes poires qui peuvent exister. Il y en a énormément. Vous aurez besoin donc de 6 poires, 4 œufs, 180 g de sucre en poudre, 100 g de beurre salé, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de cannelle. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça donne un petit avant-goût de Noël, puisque la cannelle, on va la retrouver dans les biscuits de Noël que j'ai déjà donnés auparavant. On va avoir besoin aussi de l'arôme d'amande d'amère. Voilà, c'est pour relever le goût. Il en faut vraiment pas grand-chose. Pour le matériel, vous aurez besoin donc d'un économe, d'un couteau, d'un saladier, d'un fouet et d'un moule rond à gâteau. Voilà, pour ce qui est des ingrédients. Dis-moi Nathalie, il y a souvent un ingrédient dont on parle souvent, mais on ne parle jamais en détail de sa provenance. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des choses sur la pomme de terre ?
Ouais, la pomme de terre, la patate, la pomme de terre vient de chez nous. Et pourtant, non. L'histoire de la pomme de terre, elle commence avec celle des Amérindiens. Qui vivaient il y a plus de 10 000 ans dans la zone côtière de l'actuel Pérou ou au sud-ouest de l'Amérique latine. Ces chasseurs-cueilleurs du néolithique ont doucement appris à la domestiquer et à traiter ses propriétés toxiques. Alors, il y a 8 000 ans, sur l'altiplano andin, dans la région du lac Titicaca, c'est pas un gros mot, il existe, Théo m'a regardé, mais c'est vraiment, il existe le lac. Cette domestication a abouti à des pratiques rationnelles de culture et de conservation. Au XVIe siècle, à l'arrivée des conquistadors, lors de la colonisation espagnole des Amériques, la pomme de terre, avec le maïs, est à la base de l'alimentation de l'ensemble de l'Empire Inca et des populations vivant dans les régions voisines. Après leur découverte par les conquistadors, les tubercules, oui, ce sont des tubercules, sont embarqués à bord des galions pour vivre en soute, en fait. Et les explorateurs du Nouveau Monde les débarquent dans les ports d'Espagne et d'ailleurs. De là, la pomme de terre part à la conquête de l'Europe et du monde. Objet de curiosité des botanistes et des rois, remède à certaines maladies pour les ecclésiastiques, elle n'est pas tout de suite considérée comme pouvant servir à l'alimentation des humains. Dans le sud de l'Europe, elle circule de couvent en couvent, d'Espagne en Italie, appelée alors Tara Tufi et Tartufoli dans les Alpes italiennes, Piémont-Sardaigne, Savoie, appelée Cartoufle, puis vers l'Autriche, d'Angleterre vers l'Irlande, oh là je bafouille, et des Flandres, mais il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour qu'elle commence à être sporadiquement cultivée. Sa conquête du territoire européen s'accélère alors, poussée dans les campagnes et par les famines et les guerres. Pour l'aider dans cette conquête, sa diversité allélique naturelle lui permet de rapidement adapter son horloge circadienne aux saisons et au climat des latitudes du vieux continent. Le vieux continent, c'est l'Europe. Au XVIIIe siècle, dans tout le vieux continent, jusqu'aux confins de la Russie, un véritable engouement se développe pour ce tubercule facile à cultiver et à conserver et qui permet à l'Europe d'espérer la fin des famines. La culture de la pomme de terre, en libérant le peuple des disettes, renforce les États, nourrit leurs soldats et accompagne leurs armées dans les conquêtes plus lointaines. Au XIXe siècle, la force et la stabilité alimentaire acquises grâce à la pomme de terre offrent aux empires coloniaux la possibilité de s'étendre et de dominer une grande partie du monde. La pomme de terre devient le principal soutien de la révolution industrielle, offrant une nourriture économique aux ouvriers, toujours plus nombreux, à se presser dans les villes, au plus près des usines. Le fer était entré au service de l'homme, la dernière et la plus importante de toutes les matières premières qui jouèrent dans l'histoire un rôle révolutionnaire, la dernière jusqu'à la pomme de terre. C'est écrit par Friedrich Engels en 1884 dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État.
Merci Nathalie.
En gros, la pomme de terre a sauvé le monde.
Mais oui, c'est surtout de la famine, elle a sauvé.
Oui, ça a sauvé.
C'était ça où les gens mouraient de faim, quoi, parce qu'il y avait que dalle. Eh ben merci. Ben juste, on est pas mal hein, au niveau des horaires. Je pense que peut-être que Théo, tu as une pause à faire. Non,
pas tout de suite.
Eh ben on va continuer alors. Donc moi je suis ravie de savoir. C'était très culturel cette émission. Elle devient de mieux en mieux, je trouve. Alors, il faut le dire quand c'est bien.
Exactement.
Bien. Alors on va commencer donc cette recette. Donc le velouté, je vous rappelle un petit peu les ingrédients pour cette soupe de potimarron aux noisettes. Donc il faut une pomme de terre, une gousse d'ail, une cuillère à café à soupe de noisettes, 300 3 grammes 30 grammes, 30. Je vais y arriver. 300, 100 grammes.
Je ne suis pas toute seule grammes, à bafouiller.
30 grammes de beurre, un potimarron, 25 centilitres de crème fraîche épaisse, deux brins de ciboulette, vous verrez, c'est pour la déco. Et pour le matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'un blender, d'une paire de ciseaux, et puis d'une cocotte et d'une poêle et de 6 bols. Alors, pour commencer déjà cette recette, on va commencer par... on aura besoin de 20 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Vous voyez, donc j'essaie toujours de trouver des recettes qui sont pile poil dans les temps, pendant que les enfants sont en train de se doucher. Hein. 20 minutes, c'est pas énorme. Et 1 heure de cuisson, ça vous laisse le temps de mettre la table, de s'occuper des enfants, et puis ou de se pomponner pour le repas du soir. Alors, pour commencer, on va couper le potiron en gros morceaux, vous l'épluchez, attention ne pas vous blesser hein, en l'épluchant parce que la peau est dure. Moi je prends un économe et ça va rapidement hein. Bon, si vous n'avez pas d'économe, un gros couteau ça suffira. Donc vous pelez aussi et coupez les pommes de terre en morceaux. Une fois que tout est pelé, vous allez peler et hacher l'ail, donc et vous allez laver et ciseler. Donc ciseler, c'est avec un ciseau hein, qu'on cisèle la ciboulette, ça va relativement vite. Et puis après, on va concasser les noisettes, donc grossièrement. Donc ça, vous faites ça avec un fond de verre, vous tapez dessus, ça va, ou alors vous passez vite fait au mixeur. Voilà, donc quand vos noisettes sont concassées, on va pouvoir cuire nos légumes. Donc on va mettre dans une casserole avec de l'eau, on va mettre nos légumes, c'est-à-dire les pommes de terre. Avant on va faire fondre le beurre dans une casserole, et puis on va faire revenir les morceaux de potiron et de pommes de terre quelques minutes, avec l'ail, histoire que ça prenne un petit peu le parfum de un... Alors pas trop roussi, mais juste faire revenir. Et puis une fois que vous avez fait bien faire revenir, ça fait à peu près 10-15 minutes, vous allez couvrir d'eau, donc à fleur, hein. Quand on dit à fleur, c'est à ras des légumes. Et puis vous allez faire cuire à petit bouillon jusqu'à ce que le potiron et la pomme de terre soient tendres. Donc pour ça, vous plantez un couteau à l'intérieur de votre potiron et de votre pomme de terre. Et c'est à peu près environ 15 à 20 minutes. Alors si la pomme de terre est un peu plus épaisse, automatiquement ça mettra plus longtemps. Voilà. Donc, une fois que vos 10-15 minutes sont passées, que vos légumes sont bien cuits, vous allez les mixer finement, et puis avec la moitié des noisettes. Donc, vous mettez les noisettes dans votre mixeur, et puis vos légumes et votre eau, et vous mixez. Vous allez évidemment, bien évidemment, assaisonner, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tout dépend de votre goût. Et puis, vous allez faire griller avec une poêle à blanc. Hein. Donc, ça veut dire à blanc, ça veut dire sans matière grasse. Le reste de petites noisettes qu'il y a, vous allez voir, ça va un petit peu roussir et c'est super bon parce qu'on va les déposer sur la soupe à la fin de notre préparation. Donc, vous remettez une fois que votre soupe est passée au blender, vous la remettez à feu doux tranquillement et vous allez y ajouter la crème fraîche dedans. Et puis vous allez faire réchauffer doucement en remuant avec une cuillère en bois. Une fois que votre crème fraîche est diluée et que votre soupe est chaude, ne faites pas bouillir. C'est pas bon de faire bouillir de la crème fraîche avec de la soupe. Une fois que vous voyez que ça fume un peu, et ben vous allez répartir votre soupe dans les bols et vous allez parsemer de noisettes grillées et de ciboulettes que vous avez ciselées auparavant. Voilà, et vous servez ça très chaud. Voilà.
Les noisettes, on peut les faire un peu... griller au four si on préfère.
Tu peux, mais la poêle est fortement parce que c'était une poignée hein.
Ça sert à rien d'ouvrir
four pour ça. Enfin moi perso, le temps que ça chauffe et tout ça, moi à la poêle ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Okay. Et puis ça donne un doux parfum dans la cuisine. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il est temps de faire une pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour le poulet basquez.
Otari et Okapi, koala et koati, girafe et gibbon, tapir et tatou, panthère et panda.
On pourrait continuer longtemps, mais le mieux, c'est de venir les voir au zoo parc de Beauval. Venez rugir avec les lions, parler aux perroquets, craquer devant les jumelles pandas.
Beauval, la passion animale.
Le zoo parc de Beauval et ses hôtels, une fenêtre sur le monde à ouvrir sans modération.
Elle est de retour pour la soirée de l'année sur Infini Radio. Rendez-vous le vendredi 16 décembre, dès 21h, pour Infini Christmas. Votre émission spéciale Noël. Au programme, des actus, des jeux, des cadeaux, de la bonne humeur et de la magie. Toutes les infos sont à retrouver sur www.infiniradio.fr ou sur l'application mobile Infini Radio, disponible sur iOS et Android. Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Using your words as weapons.
I swear this town's a battlefield. Can make you feel strong and vulnerable. These empty hearts are made of steel, but underneath they're not invincible. With nothing but some stardust and molecules, trying to find the light in the darkest rooms. So no matter what you say to me,
cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour continuer notre set. Donc, on va poursuivre notre émission par le poulet basquez. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet, de 3 poivrons rouges. De préférence, ça donne un peu de couleur. Alors maintenant, si vous avez du vert, du jaune et du rouge...
Il n'y en a pas un plus fort que les autres ?
Non. Bon, enfin,
c'est des piments doux, de toute façon, les poivrons.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est des piments qui ont... Il y en a un qui a moins mûri que l'autre. Hein.
Oui,
donc,
c'est ça.
C'est, quelque part, c'est ça. Hein. Voilà. Ben, il faudrait qu'un jour, je vois le poivron, tiens. Mm. C'est une bonne idée. Tiens, que... Voilà, il faut que j'y pense. Alors, donc on revient. Un poulet, 3 poivrons rouges, 100 g de lardons fumés, 3 oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de farine et du piment d'Espelette. Pour le matériel, on aura besoin de d'un économe, d'un couteau, d'une cocotte, d'une cuillère en bois. Et pour ça, vous allez compter, vous voyez, 15 minutes pour le poulet basquez, pour la préparation et uniquement une heure de cuisson. Voilà, ça c'est encore une recette vraiment facile et rapide à faire. On n'y pense pas, ça change un petit peu. Alors c'est vrai que parfois les enfants n'aiment pas forcément le poivron, mais quand il est cuit, ça passe tout seul. Alors, on va commencer déjà par éplucher le poivron. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi vous ne le faites pas griller, machin. Moi, je l'épluche avec l'économe. Comme ça, j'enlève la fine peau. En fin de compte, c'est la fine peau qui est indigeste. Et enfin, pour certaines personnes. Voilà. Donc, vous épluchez avec l'économe les poivrons. Et vous n'oubliez pas d'enlever le centre de l'intérieur où là, il y a les petites graines. Oui. Alors, les petites graines, ben, vous pouvez les récupérer. Et puis, les faire sécher. Et après, ben, une fois qu'elles sont sèches, vous les mettez dans une enveloppe, vous mettez poivron et au printemps, vous pourrez faire les semis de poivron.
Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça.
Une autre astuce, quand vous ouvrez votre... moi, je l'ouvre jamais avec le couteau, mon poivron. Et j'appuie, en fin de compte, sur la partie verte, donc la queue. Et j'appuie très fort avec mon pouce. Donc, ça débloque comme un bouchon. Hein,
oui, c'est ça.
Ça débloque et du coup, voilà, je le coupe pas et je n'en gâche pas parce que c'est que et toute la partie et même les graines viennent avec.
Voilà. Oui, faut peut-être tourner un petit peu puis ça
vient
tout seul.
Exactement,
en fait,
on tire la queue après et les graines viennent avec. Après vous coupez puisque là pour la recette, on aura besoin de couper en lamelles. Donc moi je vous préconise d'enlever le trognon, les petites graines et de le passer à l'eau de façon à ce que les petites graines puissent partir, celles qui restent accrochées parce que à l'intérieur ça reste accroché. Mm-hmm. Voilà, donc vous passez à l'eau, vous séchez bien et après vous le tranchez en petites lamelles. Donc en lamelles de, allez, 1 cm, hein, n'allez pas prendre votre mesure. Voilà, il faut que ça soit des grosses pâtes, on va dire. Voilà, et puis vous allez faire colorer à feu vif, donc dans votre grosse cocotte à feu vif, le poulet qui sera en morceaux. Alors si vous avez un boucher sympa ou un volailler sympa, et il vous le coupera en morceaux, ça s'achète aussi en morceaux, sinon vous le coupez en 6, ça suffit bien, hein. Donc on le fait au milieu, les cuisses et les parties des ailes, ça fait 6. Voilà, grosso modo, c'est très facile à couper un poulet. Donc on va faire revenir à feu vif nos morceaux de poulet, et puis on va saler légèrement. Alors vous mettez une pincée de sel, hein, ça suffit bien, vous rajouterez après par la suite. Et puis on va donc ajouter les oignons qu'on a mis en lanière, donc vous les coupez en deux, et puis vous les couchez sur leur moitié, et vous les ciselez comme ça, vous les émincez comme ça. Donc vraiment, plus c'est fin, meilleur sera. Et puis vous allez rajouter aussi donc les oignons en lanière, les lardons, et vous faites roussir tout ça. Faut vraiment que ça, et puis ça va avec l'oignon, ça va caraméliser et le gras du lardon va pouvoir graisser tout ça. Hein, donc vous mettez vraiment pour faire revenir colorer le poulet, faut vraiment mettre au départ une cuillère à soupe d'huile, hein, ça suffit amplement.
Ah, tu mets quand même, malgré qu'il y ait des lardons, tu mets de l'huile quand même ?
Ben oui, parce que, alors, le problème, c'est que les lardons, bien souvent, ça rend de la flotte en ce moment, maintenant.
C'est vrai.
Parce qu'ils mettent tellement de saumure à l'intérieur que ça rend de la flotte. Mmh. Donc, moi, je mets toujours un petit peu, parce qu'on a effectivement le gras du poulet, hein, puisque la peau, on ne l'a pas enlevée. On a le gras du lardon, mais... voilà, rajouter de toute manière, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est rien, quoi, surtout sur un poulet entier. Voilà, donc vous faites bien roussir. En général, ça fait 10-15 minutes, hein. Grosso modo, on fait roussir tout en remuant avec le... avec une cuillère en bois, hein, pour éviter d'abîmer votre cocotte. Et puis, vous allez bien décoller votre suc. Hein, et quand on dit suc, c'est vraiment l'oignon qui va, en fin de compte, faire le jus avec le poulet et les lardons. C'est ça, le suc. Et donc, vous décollez bien. Et puis, vous allez ajouter de la farine. Donc, vous saupoudrez votre poulet et vos oignons et vos lardons de la farine. Vous mélangez bien avec votre cuillère en bois, et puis vous faites cuire légèrement. Toujours pareil, vous faites un petit peu roussir la farine. Hein, en fin de compte, on va faire un semblant de roux. C'est pour donner un peu de l'épaisseur à notre sauce. Et puis, on va ajouter après les lanières de poivron, et puis une cuillère à café de piment d'Espelette. Alors, dans un premier temps, et puis après, peut-être que tout à l'heure, en fin de cuisson, vous en rajouterez, ça dépend du goût. Voilà, le piment d'Espelette, c'est pas un piment qui est très,
très fort.
Très fort. Voilà,
c'est très parfumé.
C'est, voilà, par contre, c'est parfumé et puis ça rappelle un petit peu Espelette, l'Espagne, enfin, bon, vraiment, ce côté-là. Donc à notre recette, on va rajouter l'eau à la hauteur. Donc vous recouvrez votre poulet, tous les aliments d'eau et vous allez laisser mijoter à feu doux, par contre. Et le minuteur, vous le mettez à partir du moment où ça commence à buller. C'est-à-dire que ça ne va pas chauffer tout de suite. Une fois que vous voyez que ça bulle, vous baissez votre gaz, votre feu, et puis vous mettez 30 minutes au compteur. Ensuite, vous pouvez faire servir du riz avec ça, du riz blanc, ou alors légèrement safrané. Vous pouvez mettre un petit peu de safran dedans, ça peut être sympa. Ça, c'est un plat qui est vraiment plein de couleurs et du parfum. C'est un parfum, c'est succulent. Vraiment, ce poivron et puis le piment d'Espelette, c'est vraiment... Et puis, c'est un plat familial. Voilà. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le poulet basquaise?
Alors, le poulet basquaise ou poulet à la basquaise, c'est une spécialité culinaire traditionnelle, emblématique de la cuisine basque, de son nom, basquaise. Étendu avec le temps à la cuisine française, à base de morceaux de poulet mijotés dans une piperade. Alors, piperade, c'est une sauce confite de poivrons rouges et verts, de tomates, d'oignons, d'ail, d'huile d'olive, de vin blanc, de bouquets garnis, plus ou moins relevés au poivre et au piment d'Espelette. Le poulet à la basquaise est aux couleurs du drapeau basque, rouge, vert et blanc. Il est traditionnellement mijoté et servi donc avec une piperade dans une case sole, en terre cuite, une casuela ou une cocotte, et peut être améliorée avec du jambon de Bayonne. Le poulet vascon de Vasconi, c'est une variante humoristique de nom de la bande dessinée Astérix en Hispanie de 1969 de René Goscinny et Albert Uderzo.
Oui, ben voilà. Donc vous penserez à un poulet basque quand vous lirez Astérix. Vous penserez à nous peut-être ou pas.
Ou pas.
Voilà. Écoutez, je vous propose pour la suite une pause musicale. On se retrouve tout à l'heure pour le dessert.
Je serre les dents, je crains les oiseaux qui plombe le ciel, les tirs au sort, les innocents. Mes beaux efforts, tout ça n'est que pour toi. Mes jeux ne me font mal, je fais le mort comme un enfant. Ah, et j'ai mal, je poursuis le combat. J'ai si mal, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, c'est tort. Ça fait mal, moi j'hallucine à demi-mort. L'étirement du sourd, je pense à toi dehors. Et ça c'est tous les jours, ma tête est mise à mort. Me reste que l'amour, le ciel m'accuse à tort. Et je paierai pour toujours le prix des années folles, la bêtise d'un homme. oiseau qui tombe du ciel et qui dévore les innocents. Mes beaux efforts, ils n'étaient que pour toi. Mes genoux me font mal, je fais le mort comme un enfant. Ah, et j'ai mal. Ah, j'ai perdu le combat. Ah, j'ai si mal. Ah, eh, eh.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne. Dans l'émission Foodanne.
Bien. Je suis désolée. Bonsoir, rebonsoir. J'ai un problème d'écran. Donc, non, mais ça devrait le faire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va essayer de continuer l'émission en espérant que je ne me cours pas dans les recettes.
Bah, tu veux que je raconte l'histoire de la poire pendant que tu retrouves tes petites notes ?
Alors, bah, justement, j'allais y venir, justement, avec le dessert. On va continuer avec le dessert qui est le gâteau aux poires et au beurre salé. Alors, les poires, on est en pleine saison de poires.
Ouais.
Mais on va découvrir dans l'histoire que Nathalie va nous raconter qu'elles sont pleines de vitamines, qu'elles sont très goûteuses, mais on en a sur toutes les saisons. Voilà, donc Nathalie, à toi de nous dire un petit peu ce qu'il y a sur ce fruit.
Alors, la poire, qui est un fruit à pépins, personne ne l'ignore, comestible au goût doux et sucré, produit par le poirier commun, qui est le Pyrus communis, arbre de la famille des Rosaceae. Alors, Anne aime bien me donner des mots latins. Le terme de poire désigne aussi par extension le fruit de tout arbre du genre Pyrus. Il existe plusieurs variétés de milliers de variétés cultivées de poiriers. Le premier pays producteur mondial, c'est la Chine, qui a produit 16,5 millions de tonnes de poires asiatiques en 2017. C'est énorme. L'Union européenne, elle, avec ses 2,5 millions de tonnes de poires européennes, elle est ridicule, vient en seconde position quand même. Donc entre 16 et 2, quand même. En France, la poire commune est le sixième fruit le plus consommé, de forme caractéristique oblongue et ventrue à la base. La poire européenne est généralement de couleur verte, jaune, rousse ou rouge. La très ancienne poire de Worcester est en noir. Les poires asiatiques sont souvent jaunes blanchâtres et de forme subglobuleuse. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est subglobuleuse, mais je vais chercher. Tiens. La poire européenne se consomme le plus souvent à maturité, crue ou cuite ou séchée, son jus étant utilisé tel quel et sous la forme fermentée d'un cidre nommé poiré. En Asie orientale, notamment en Chine, au Japon et en Corée, les poires sont utilisées comme remède populaire traditionnel pour soulager l'alcoolisme, la constipation et la toux. Son nom est issu du bas latin pyra, neutre pluriel, pris pour un féminin singulier de même sens. L'ancien français étant père, P-E-I-R-E ou père, comme le père, P-E-R-E, resté dans les dialectes de l'ouest de la France, en occitan. Son nom est pera ou pero, de même origine, italien pera, espagnol pera, qui remonte également au latin populaire. Les langues germaniques ont emprunté l'étymon du latin vulgaire anglais peer, renforcé par le normand, néerlandais peer, en Allemagne c'est birne, birne, je pense, birne, forme tardive et altérée du sud de l'Allemagne. Le mot celtique est aussi un emprunt au latin breton per, P-E-R, en gallois perenne et en irlandais piora. Pardon. Le terme latin est d'origine, lui, inconnue. Alors, les poiriers sont très hétérozygotes en raison de leur auto-incompatibilité et de leur comptabilité interspécifique, justement. Il existe plus de 2000 variétés de poires européennes, partagée selon leur usage entre poire de bouche, donc à manger telle quelle, hein, et à la poire à cuire ou à fermenter. Les poires de table sont regroupées sous des appellations génériques telles que beurrée, avec une chair fondante, bon chrétien ou poire bergamote. On les classe actuellement par période de maturation. Les poires peuvent se manger toute l'année, mais il y a les poires d'été. Belle épine du mât, beurre et giffard, bon chrétien Williams, et j'en passe, issus d'un semis de hasard donnant des fruits d'un arôme incomparable. C'est la variété la plus cultivée aux États-Unis. Pérouille, docteur Jules Guyot, poire sénateur VC, beurré chabosseau ou poire d'automne. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'abbé Fettel ou abatte. À l'alexandrine douillard ou poire douillard, beurrée de raméni, beurrée hardy, obtenue à partir d'un semis à Boulogne-sur-Mer, globuleuse, chair blanche, fondante, très cultivée en Île-de-France. Concorde, la conférence, je pense que c'est une des plus connues, obtenue au Royaume-Uni, poire très allongée, légèrement courbe, à la chair blanche, jaunâtre, très juteuse. Il y a la curée ou la belle, ou curette, doyenneté du comice ou la comice, qu'on connaît aussi pas mal, obtenue en 1849 dans le verger du comice agricole d'Angers, globuleuse à peau jaune paille, chair blanche, fondante, gris de chin, Louise Bonne d'Avranches, obtenue à Avranches. Enfin bon, bref, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais il y en a énormément. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a une poire, alors l'Avranches. C'est une poire juteuse, sucrée et parfumée qui plaisait beaucoup à Louis XIV. C'est ça ?
Ouais.
Et la poire d'hiver. Alors, les poires d'hiver, je vais en donner quelques-unes, pas toutes, hein, parce qu'il y en a 2000, hein, c'est ça que j'ai dit. Les poires de saison, donc elles se consomment en général de décembre à juin. Il y a la bergamote crassane d'hiver, la bonne de Malines, la certeau d'hiver, la charlène Ernest. Enfin bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Quoi vous dire ? Il y a les poires à cuire, mais voilà, je ne vais peut-être pas donner tous les noms. Hein.
Les poires à cuire, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Martin sec, voilà. La Blesson ou Blosson et la Sarteau.
Voilà, donc il y en a certes. Il y a la Blosson, entre autres, c'est une poire à rissoler.
Oui.
Voilà. Alors, évidemment, les plus connues, c'est la conférence, la comice.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Mais il faut savoir qu'elles ont des dérivés et qu'elles portent d'autres noms.
C'est ça.
Mais que comme les gens ne sont pas habitués à toutes ces sortes de poires, on reste sur la William et la comice. Voilà.
Donc, disons que nous, sur nos étals de nos primeurs, on ne trouve pas toutes les variétés. Il y a des variétés anciennes, donc j'imagine qu'il faut aller dans les terres, dans des régions qui les cultivent encore. Mais...
Oui, je pense, mais voilà pourquoi. Alors moi, je cherchais pourquoi on avait de la poire toute l'année. Là, pour le fait, on peut avoir de la poire toute l'année.
C'est ça.
Sauf qu'elle va être meilleure à certains moments de l'année. Voilà.
Exactement.
Donc quand vient l'hiver, comme ça on peut la cuire, c'est quand même vachement sympa, parce qu'on a quand même des poires qui sont faciles à utiliser en cuisine. On peut les rôtir, on peut faire plein de
en
choses
crumble.
Avec. Voilà, ou en crumble avec de la pomme, c'est excellent. Voilà, ou de la confiture, enfin vous faites plein de choses, c'est vraiment superbe. Écoutez, je pense qu'on a besoin d'une pause avant d'attaquer la recette, hein, parce
oui.
que parce que là faut se remettre, hein, de ces demi-espèces. Voilà, tout de suite.
Pendant des heures, prends-moi. prier mon cœur. Pourtant quand j'évoque mes sentiments, tu me fuis pendant des heures. Promets-moi que tu reviendras. Promets-moi que je ne t'attends pas. Promets-moi qu'on se reverra. Promets-moi que tu reviendras. J'ai trouvé, j'ai menti, j'en voulais, je ne veux plus t'attendre, non. Je ne te fais pas peur, tu as déjà pris mon cœur. Pourtant quand j'évoque mes sentiments, tu me fuis pendant des heures. Promets-moi que tu reviendras, promets-moi que je ne t'attends pas. Promets-moi qu'on se reverra, promets-moi que tu m'aimeras.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, merci. Nous revoici, mais je voulais dire merci, Nathalie, pour d'avoir éclairé nos lanternes sur ce fruit, quand même. Hein. Alors, on parlait justement avant la pause de la poire. Ce qui va nous permettre de faire donc avec une très belle poire. Alors, la poire que vous trouverez dans les magasins ou sur le marché, hein, c'est. Voilà, choisissez-la un peu mûre, ça c'est plus sympa. Et. Si votre marchand il est sympa, vous la goûtez. Si elle est sucrée, prenez-la parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc pour ce gâteau aux poires et au beurre salé, vous aurez besoin donc de 20 minutes de préparation, 1 heure de cuisson. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 6 belles poires, 4 œufs, 180 g de sucre en poudre, 100 g de beurre salé, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Une cuillère à café de cannelle, ça c'est pour les arômes, et puis de l'arôme d'amande amère. Et puis le côté matériel, vous aurez besoin d'un économe, d'un couteau, d'un fouet, d'un moule rond à gâteau et puis d'un saladier. On va commencer par éplucher les 6 poires. Et on va, donc une fois que vous aurez épluché les 6 poires, on va en couper 4 en lamelles. Donc pour ça, et les 2 autres, on les mettra de côté. Pour ça, bah, vous les coupez, donc vous les épluchez, vous les coupez en 2. Vous enlevez l'intérieur, vous avez un filament qui va jusqu'à la queue, donc vous enlevez bien avec moi je fais ça avec une petite cuillère mais pas une cuillère à café, encore plus petit, donc comme ça, comme la poire elle est bien mûre, normalement j'arrive à enlever la poire. Ensuite vous allez beurrer votre moule et vous allez préchauffer votre four à 190 degrés, donc c'est à peu près 6-7 au niveau de thermostat. Donc on va mettre à ramollir le beurre et puis dans un saladier on va mélanger le sucre, les œufs entiers, et on va mélanger pour que ça soit un mélange un petit peu lisse, mousseux et qui va devenir un petit peu d'une couleur un peu jaune pastel. Ensuite, quand votre beurre il est ramolli, alors moi le beurre ramolli je le passe au micro-ondes 30 secondes de façon qu'il soit ramolli et qu'il soit un petit peu en pommade, alors qu'il soit pas fondu. Alors s'il est fondu c'est pas grave, le jetez inquiétez pas, la recette sera pareille, mais en pommade c'est beaucoup mieux et vous aurez un dessert qui sera plus compact. Voilà, donc en pommade c'est pas liquide, c'est mou. Alors moi ce que je vous conseille, c'est avant de commencer cette recette, c'est de sortir le beurre le
à température ambiante
deux heures avant. Et là, vous aurez quelque chose en pommade. Voilà. Donc, on va ajouter à ce sucre et à ces œufs le beurre en pommade. Et puis, on va verser ensuite la farine, la levure, le sucre vanillé, la cannelle en poudre et l'arôme. Donc, l'arôme, c'est quelques gouttes. Hein, donc, en général, l'arôme d'amande, on l'a en petite fiole, vous mettez quelques gouttes. Voilà. Et puis pour la cannelle, c'est suivant votre goût, encore une fois. Moi, je mets une petite pincée parce qu'il y en a certains à la maison qui n'aiment pas la cannelle. Voilà. Quand c'est que pour moi et que je fais que de l'individuel, par exemple, parce qu'on peut faire des gâteaux individuels avec cette recette-là. Et eh ben du coup j'en mets un peu plus dans mon plat à moi. Et vous allez prendre le fouet et vous allez fouetter donc tout ce mélange. Ça va être un peu plus dur parce que si votre beurre n'est pas en pommade, ça va être plus compliqué. Voilà, une fois que vous avez bien fouetté, que votre préparation est bien homogène, vous allez verser les trois quarts dans votre moule. Et vous allez les recouvrir des poires qu'on a mis en lamelles. Voilà. Une fois que vous avez recouvert donc vos poires en lamelles, vous allez finir de verser le reste que vous avez mis. Donc vous ajoutez sur les demi-poires et puis vous saupoudrez de sucre en poudre. Et vos demi-poires que vous avez gardées, vous les mettez par-dessus. Ça veut dire qu'en fin de compte, on a fait on a mis une sous-couche de poire. C'est important parce que comme ça, il y en aura partout de poire dans votre gâteau. Et ça évitera qu'elle redescende parce qu'en général, si on la mélange entièrement à la pâte, déjà ça l'abîme. Et puis hein, il y en a pas forcément partout et ça se mélange pas trop mal. Donc en lamelles, je répète l'opération, c'est tout bête. Hein. Vous mettez trois quarts dans votre moule donc de préparation, vous mettez vos poires en lamelles. Vous recouvrez de votre poêle, de votre pâte, et vous y ajoutez donc les demi-poires, et puis vous saupoudrez de sucre en poudre, et vous enfournez pendant une heure à 190 degrés. Et voilà. Et donc c'est terminé pour cette recette. Alors pour la cuisson, toujours le couteau au bout d'une heure. Alors moi je vérifie au bout de 45 minutes.
Oui, parce que c'est long, une heure, je trouve.
Oui, mais il faut savoir que les poires, il faut qu'elles soient cuites.
Oui.
Donc 45 minutes, vous mettez au milieu de votre plat un couteau. S'il ressort sec, c'est que c'est cuit, donc vous l'enlevez. Hein, vous laissez bien refroidir avant de servir. Et puis, si jamais c'est encore humide, ben vous remettez un quart d'heure. Voilà, 5-10 minutes, un quart d'heure, vous vérifiez bien. Et voilà, enfin, ce qui est bien, c'est que ça va être croustillant au-dessus et moelleux à l'intérieur. C'est vraiment un superbe gâteau. Alors, vous pouvez le servir le soir, hein, donc ça avec un petit coulis de fruits rouges, par exemple, ou là, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut... Un coulis de mangue, ça peut être sympa. Mangue et poire, c'est super bon.
Caramel.
Ou un caramel au beurre salé aussi, mais ça fait gâteau au beurre salé aussi. Voilà. Si jamais il vous en reste, vous pouvez de toute manière le prendre pour le goûter. Ça, c'est un dessert qu'on pourra prendre pour le goûter. Si jamais il vous en reste, hein, parce que ça file très très vite. Alors, moi, j'ai parlé d'un moule rond, mais vous pouvez le faire dans un moule à cake. Et dans ces cas-là, vous mettez une couche de pâte, vous mettez une couche de poire, une couche de pâte, une couche de poire, etc., jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien. Voilà. Et les deux poires qui vous restent, et ben vous les mettez par-dessus.
Oui, voilà. Ok.
Donc voilà, ça peut être une idée. Amusez-vous, choisissez des moules un peu biscornus, ça peut être sympa. Mais l'idée, c'est de vraiment faire une couche de pâte, une couche de poire. Voilà. Je pense qu'on peut prévoir une pause et puis on se retrouve pour une petite surprise parce que là, on arrive à la fin de la recette. Mais comme c'est Noël, y a une surprise. À tout de suite.
Comme un orage qui gronde, je pense à toi à chaque seconde. Comme la pluie sur la fenêtre, tu me dis oui et puis peut-être. Mais moi je t'aime pour la première fois, mais moi je t'aime, je ne veux que toi. Premier amour, au premier baiser, je suis ensorcelée. Premier amour, je t'aime.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici et je vous avais promis avant la pause une surprise. Et pour la surprise, j'ai choisi de vous faire partager ma recette de tuiles aux amandes. Ça, c'est un petit gâteau super sympa à préparer. Il vous faudra à peu près 25 minutes pour l'ensemble, hein. Autant la préparation que la cuisson, ça va relativement vite, on a 10 minutes de cuisson.
Oui.
Voilà, donc non, c'est très très rapide. Alors, on a besoin de 100 g de sucre en poudre, donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas eu sur la liste que...
Oui, c'est un bonus.
Voilà, c'est vraiment un bonus. Donc 100 g de sucre en poudre, 50 g d'amandes effilées, 35 g de beurre, 30 g de farine et de blanc d'œuf. Voilà, donc ça c'est pour les les ingrédients. Donc oui, il y a une quinzaine de minutes de préparation, grosso modo, mais 10 minutes de cuisson. Justement, en parlant de cette cuisson, on va déjà préparer notre four et on va le mettre thermostat 5-6. Donc 180. Ça vous fait 180, un peu moins que 180. Faut que ça cuise tout doucement, 10 minutes. On va faire fondre le beurre dans un premier temps et puis on le laisse refroidir. Alors moi j'aime bien, après vous faites comme vous voulez, mais moi je le mets au micro-ondes, comme ça ils fondent bien. Et après, je mets au frigo, comme ça, il refroidit.
Ah, tu le mets au frigo derrière, d'accord.
Ouais. Mais on vous demande de faire fondre, on ne vous demande pas de réchauffer. Voilà, il faut vraiment que le beurre soit froid et pas chaud. Méfiez-vous de ça, parce que si vous le mettez chaud, vous allez voir vos blancs d'œufs, ça va être une catastrophe.
Ah bah oui.
Puisqu'on les met dans le blanc d'œuf. Donc, mais on ne veut pas que ça soit en pommade, comme pour le gâteau.
Oui, il faut que ce soit fondu.
Il faut que ça soit fondu, mais froid, pas chaud. Voilà, en attendant, tiède. Donc moi, c'est ce que je fais quand je n'ai pas prévu mon coup. Après, vous allez battre vos blancs en neige avec le sucre. Donc vous montez, vous prenez un batteur électrique, c'est quand même beaucoup plus rapide.
Oui.
Une fois que vos blancs en neige sont montés, vous allez y ajouter donc, la farine, le beurre fondu, froid, et on va continuer à battre avec le fouet. Donc,
ça ne va pas redescendre.
Non, normalement, ça redescend. Alors, votre farine, je vous rappelle quand même, il y a 35 grammes.
Oui, il n'y a pas beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de farine. Donc, vous saupoudrez, vous ne la mettez pas d'un seul coup. Si vous voulez la passer au chinois, au tamis, de façon à que ça soit une poudre un peu plus légère, vous pouvez. Mais vous continuez donc à battre avec le mixeur. Enfin, votre batteur électrique, le fouet. Et une fois que vous avez une pâte qui est bien homogène, bien lisse et un petit peu mousseuse, vous allez voir, c'est mousseux, vous allez mettre ça sur des plaques qui vont être recouvertes de papier cuisson. Et on va mettre de la valeur d'une cuillère à café sur la plaque. Donc vous laissez couler, éventuellement avec le dos de la cuillère, on étale un petit peu pour que ça prenne la forme que vous voulez. Donc vous pouvez faire des virgules, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous saupoudrez d'amandes et vous passez au four 10 minutes, tout simplement. Et au bout de 10 minutes, vous ressortez.
Il faut que ce soit un peu épais ou pas, comme tu...
Alors, l'idée, c'est que vous pouvez vous faire... alors, si vous ne rajoutez pas, tu vas comprendre ma pensée, parce que je suis dans ma recette. Donc, c'est la même recette pour les cigarettes russes.
D'accord.
Des cigarettes...
Ou les langues de chat.
Ou les langues de chat, mais les langues de chat, c'est un petit peu plus épais.
Ah, c'est plus épais,
et
d'accord.
Et on va la travailler différemment. Mm-hmm. Mais là, c'est la tuile, et la tuile, normalement, elle est plate, et les cigarettes sont plates. Et en fin de compte, pour leur donner leur forme arrondie, eh ben, c'est simple, à la sortie du four, mais il faut aller très très vite pour les cigarettes, vous les mettez sur un bâton en fer, et je les roule dessus. Et ça me fait des cigarettes.
D'accord.
Voilà. Et après, j'y touche plus. Parce qu'il faut qu'elles prennent la forme. Et puis, par contre, pour les tuiles, eh ben, si vous avez des bouteilles, vous les calez bien, ou un rouleau à pâtisserie, et vous déposez délicatement votre tuile sur la bouteille ou le rouleau, et ça va prendre la forme arrondie. Je vous donne encore une astuce. Si un jour vous voulez faire un fond de gâteau pour une mousse au chocolat ou un truc comme ça, vous faites le même appareil, sauf que là vous allez le faire sur 10 cm, d'accord ? Votre appareil sur la plaque, vous le mettrez de 10 cm. Et vous passez au four, pareil, 10 minutes. Vous regardez bien, ça roussit un petit peu
tout autour.
Et une fois que c'est un petit peu roussi, vous le ressortez, vous le mettez dans un bol et vous mettez un verre au milieu. Et ça va vous faire un bol en biscuit.
D'accord, ouais.
Voilà, donc ça, c'est des astuces que vous... ils sont gratis, que je fais souvent. Moi, j'aime bien, ça me fait... Et puis après, vous pouvez prendre ça peut prendre la forme qu'on veut. Voilà. Mais il faut aller très très vite. Vous faites attention de ne pas vous brûler.
Ouais, c'est ça.
Pensez à prendre une spatule, c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais, et après, vous pouvez conserver les cigarettes ou les tuiles. Vous pouvez vous conserver à peu près, si ça se conserve, c'est 5-6 jours. Voilà, dans une boîte en fer.
Ok.
C'est boîte en fer ou une boîte hermétique. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, voilà, c'était ma dernière recette de l'année.
Oui.
Voilà, notre émission, elle touche à sa fin.
Eh oui.
Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je suis un petit peu... moi, je suis ravie d'avoir pu vous faire partager tout au long de cette année des recettes faciles et puis rapides. Et surtout, faciles à préparer, rapides, qui sont délicieuses, que vous pourrez partager en famille, entre amis. Je sais, je suis un petit peu longue, je vais dépasser, mais il faut savoir aussi, voilà, moi
t'en fais pas, on a déjà dépassé. Hein.
Ben tant pis.
On change pas une équipe qui gagne.
Exactement. Voilà. Moi, j'ai du mal à vous quitter parce que voilà, c'est la fin d'année. Je vous souhaite de passer de très bon, un très joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année en famille ou en amis. C'est partager ce bonheur des fêtes de Noël. On se retrouve le mardi 3 janvier,
oui,
à la même heure, c'est-à-dire 19h30, 20h30. Voilà, en attendant, on se retrouve l'année prochaine, donc.
Ouais.
Et en attendant, prenez soin de vous, fêtez Noël et la nouvelle année. On vous embrasse tous très fort. Bonne soirée.
Bonne soirée.